peut aller plus sur des amers, sur ce côté assez fruits confits. On va retrouver souvent des notes de cidre, on me le dit souvent, ces notes de pommes cuites, de cannelle, de clous de girofle. Ça va dépendre aussi du temps de macération. En général, plus la macération est longue, plus cette palette aromatique d'épices va être vraiment développée. Après, on va retrouver aussi des vins qui vont être plus sur la tension.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. C'est la quatrième couleur du vin. Après le rouge, le blanc et le rosé, il y a le vin orange. Ces dernières années, ce type de vin s'est frayé un solide chemin à la carte des caves et des bars à manger à la mode. Faut-il y voir là un énième sursaut du marketing désireux d'inventer une nouvelle déclinaison d'un produit millénaire? Eh bien, pas tout à fait. Car si le vin orange est actuellement remis au goût du jour, le procédé par lequel on le fabrique est avant tout né il y a environ 8000 ans dans le Caucase, en Géorgie, berceau de la viticulture. C'est là-bas qu'on y faisait et qu'on y fait toujours macérer des vins blancs dans des amphores, ces grands récipients en argile. Macérer des vins blancs, voilà donc en quoi consiste l'élaboration de vin orange. Le vin orange, c'est pour le dire autrement, du vin blanc de macération ou du vin blanc macéré. Dans cette manière de faire, le jus de raisin est laissé en contact avec les peaux, les pépins et les rafles, le nom que l'on donne à la charpente d'une grappe de raisin, le tout pendant un certain temps. Cette opération va permettre d'extraire de nouveaux arômes, des tanins, une structure et une couleur supplémentaires. En somme, le vin orange, c'est du vin blanc qu'on va vinifier comme du vin rouge. Et si vous entendez de plus en plus parler de vin orange, c'est parce qu'avec l'essor du vin nature et la fin des AOP comme horizon indépassable, on trouve aujourd'hui un nombre croissant d'acteurs et d'actrices du secteur qui tournent le dos aux pratiques conventionnelles des filières et adoptent le choix philosophique de laisser le terroir s'exprimer. C'est donc dans ce sillage-là que l'on observe un intérêt pour le champ d'expérimentation que sont les vins oranges. C'est d'ailleurs dès le début des années 90 que deux vignerons, Stanko Radicon et Josko Gravner, installés dans le nord de l'Italie en Vénétie, ont commencé à produire des vins blancs de macération longue, élaborés entre autres à partir de Pinot Grigio. Aujourd'hui, la plupart des vins oranges sont donc des vins nature, des vins qui font fi des appellations, des vins non standardisés par des cahiers des charges stricts, certaines aires géographiques n'acceptant tout simplement pas de faire une place aux vins oranges dans la catégorie des vins blancs. Pour en savoir plus sur le vin orange, je me suis rendue chez Livingstone, à Marseille. Ce bar à vin a une particularité. À la carte, on trouve plus de vin orange que de vin rouge ou de vin blanc. C'est simple, grâce à leur côté sec et leur légère amertume, les vins oranges sont ceux qui se marient le mieux à la cuisine de Valentin Raffali, très saturée, pleine d'épices, de fumage et de pimenté. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Hélène Maurer, la sommelière de Livingstone. On a pris deux tabourets et on s'est assise dans la cave du bistrot, au milieu des nombreuses bouteilles qu'elle prend le temps chaque semaine de classer, conseiller et faire déguster.
Le vin orange, c'est du vin blanc qu'on vinifie comme du vin rouge. Ça veut dire qu'on va laisser macérer les peaux du raisin, ce qu'on ne fait pas initialement dans du vin blanc. Et ça qui va donner des tanins au vin, parce que les tanins, on les retrouve dans la peau. Parfois, on met même la rafle, c'est-à-dire la grappe entière. Ça va donner vraiment une complexité très, très différente. Ça va donner des arômes très particuliers. Ça a vraiment son identité propre, l'orange. Ce qu'on me demande la plupart du temps, c'est est-ce qu'on peut l'identifier plus à un rouge ou à un blanc. En fait, c'est très singulier. Pour la petite histoire, le vin orange, en fait, ça date d'il y a plus de 6000 ans. On a retrouvé en Géorgie, qui est le berceau du vin orange, et puis du vin de manière générale. Il y a plus de 6000 ans, dans des amphores en terre cuite, ce type de vinification. Et on le remet de nouveau au goût du jour parce que c'est super joli en accord et qu'en fait, il y a un panel très, très éclectique de goûts et de couleurs, autant que dans du blanc et dans du rouge.
Alors oui, tu l'as dit, le vin orange, c'est du vin vinifié comme du rouge. C'est aussi pour ça qu'on appelle ça parfois aussi le vin blanc de macération. C'est notre façon d'en parler. Et c'est intéressant, oui, de faire le détour par l'histoire et de se rendre compte qu'en fait, ça existe depuis super longtemps. Parce que spontanément, beaucoup de personnes pourraient croire que c'est plutôt un truc à la mode, un peu nouveauté, un truc un peu gadget qu'on ferait juste pour avoir cette belle couleur dans le verre.
C'est vrai. Après, à savoir que en fait, les couleurs en fait, dues à la macération ne sont pas dues à la longueur de la macération. On va retrouver vraiment un spectre très différent qui part du jaune doré au orange très foncé. Parce que le raisin en lui-même peut avoir une peau plus épaisse, plus fine, peut être élevé en fût de chêne ou pas du tout élevé d'ailleurs. Et donc, du coup, on retrouve vraiment tout un panel de couleurs différentes. Et c'est vrai que nous, on essaye de jouer un peu contre cet effet de mode parce qu'à Livingston, la raison pour laquelle il y en a autant à la carte, c'est parce que ça va très très bien avec la cuisine que propose Valentin, Paul et l'équipe, c'est-à-dire le côté barbecue, ce côté fumage, toutes les épices qu'on retrouve, en fait, on va les retrouver aussi dans le vin orange, dans ces vins de macération. Ce côté fruits confits qui tire parfois plus sur l'amertume, plus sur le fruit, plus ce côté floral qui vont se marier parfaitement et qui vont contrebalancer un peu toutes les épices et ce côté fumé qu'on va retrouver dans la cuisine. Donc en fait, le vin orange, selon moi, c'est très très chouette avec plein de choses différentes, c'est très très cool.
Oui, donc tu as vraiment une palette aromatique très précieuse, très riche. Et c'est fascinant quand même de se dire que tout ça, ça part du fait qu'on va faire fermenter donc la peau des raisins, peut-être les pépins aussi parfois, il me semble. Et puis les rafles, donc vraiment la charpente de la grappe, ça va nous faire jouer sur l'extraction et de plus d'arômes et aussi de plus de couleurs. Comment on pourrait décrire la palette vraiment de goût des vins oranges? Parce que tu l'as dit, donc ça peut, en termes de couleurs, on peut aller du jaune foncé, un peu doré, au orange foncé, orange sanguine presque. Est-ce qu'on peut dire que le vin orange a, même dans sa diversité, une caractéristique, par exemple, de goût? Est-ce qu'il est un petit peu moins acide que le vin blanc? Est-ce qu'il est un peu plus frais que le vin rouge?
C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que ça a vraiment son identité propre, mais c'est vrai que ce qu'on retrouve souvent dû à la macération, donc le fait qu'on laisse macérer les peaux, on va retrouver souvent un peu plus d'amertume dans les vins. Ce qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans le vin rouge, le fait qu'on laisse macérer les peaux, ça va apporter un peu plus d'amertume, c'est cette chose qu'on retrouve beaucoup moins dans le vin blanc. Le fait que ce soit un type de vinification, ça veut dire qu'on peut le retrouver partout en France, partout dans le monde, mais il y a certains raisins qui vont avoir une typicité très particulière, je pense par exemple au muscat, au Gewürztraminer qu'on va retrouver en Alsace, qui sont des raisins très aromatiques. Pour parler du muscat, il va avoir ce côté très floral, très fleur blanche. Le Gewürztraminer, plutôt de ce côté litchi, rose, très exotique, qu'on va retrouver en macération. Mais par contre, c'est quelque chose que j'essaye de déconstruire un peu. Quand on me pose la question « qu'est-ce que le vin orange ?», une des premières réponses des clients, c'est « est-ce que c'est sucré ?». Et c'est vrai que c'est une question judicieuse, parce que quand on ne sait pas du tout, j'imagine que la couleur peut associer à quelque chose de sucré, alors que pas du tout. Tous les vins oranges, en tout cas ceux qu'on a et ceux que je connais, sont secs. Et donc, pour parler du panel assez éclectique des goûts, on peut aller plus sur des amers, sur ce côté assez fruits confits. On va retrouver souvent des notes de cidre, on me le dit souvent, ces notes de cidre, ces notes de pommes, de pommes cuites, de cannelle, de clous de girofle. Ça va dépendre aussi du temps de macération. En général, plus la macération est longue, plus cette palette aromatique d'épices va être vraiment développée. Après, on va retrouver aussi des vins qui vont être plus sur la tension. Par exemple, je pense à Partida d'Acreus qu'on est allé visiter il y a quelques jours. Eux, ils sont en Catalogne et en Catalogne, c'est une très jolie région parce qu'il y a beaucoup d'altitude. Et en fait, on va se retrouver vraiment entre ce côté très frais dû à l'altitude, dû au vent, jusqu'au courant marin et en fait à la longueur de la macération qui va apporter toute l'amplitude de la palette de goût. Et donc, on va vraiment s'y retrouver avec ces vins qui vont être très tendus sous ce côté très minéral, mais en fin de bouche avec une palette aromatique bien riche de plein d'épices et de profondeur.
C'est important de rappeler que la couleur, elle indique pas forcément toujours plus de sucre, parce que peut-être que justement les gens qui vont voir du vin orange vont penser que c'est comme du vin blanc plus liquoreux. Les vins sont liquoreux à partir du moment où le taux de sucre résiduel, il est supérieur à 400 grammes par litre. Donc peut-être que les gens confondent avec ça, ou même peuvent se dire ah, est-ce que ça ressemblerait pas à du vin jaune, du vin du Jura, les vins oxydés aussi. Les vins sont oxydés quand ils sont au contact de l'oxygène du coup et qu'ils entament leur vieillissement. Ou les vins madérisés en fait, c'est-à-dire des vins où il y a un petit problème et que un peu d'oxygène s'est invité dans la bouteille. Donc c'est peut-être un peu comme la Poutargue, tu vois, la poche d'œufs de mulet. Beaucoup de gens pensent que plus elle est orange foncé, plus elle est forte. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir et ça dépend juste du mulet de base du poisson.
Mais c'est vrai que l'éducation qu'on a autour du vin, très scolaire, et déjà avec le vin nature, on essaye de déconstruire un peu tous les codes qui ont été faits depuis des centaines, voire des milliers d'années, et qui font partie de notre patrimoine culturel, surtout en France.
Bah, en tout cas, on se dit que le vin orange, c'est peut-être comme quand tu analyses un verre de sirop. Plus il est foncé, plus tu dis que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de sirop.
Comme je le disais tout à l'heure, je parlais d'Alsace, par exemple. Je pensais au raisin, le pinot gris alsacien. Il a une peau assez épaisse et une couleur assez foncée. Et donc, en macération, on va retrouver des couleurs magnifiques qui vont tourner sur le rouget, sur le rose, sur une sorte de même fuchsia qui est magnifique, impressionnant, et qui ne dépend pas du tout du temps de macération, mais du raisin en lui-même. C'est ça qui rend la palette des couleurs très jolie, c'est que les raisins, ils sont pour beaucoup. Le raisin en lui-même et pas le temps de macération.
Alors moi, il y a un truc que j'adore chez Livingston. Stone, c'est que c'est vraiment votre parti pris de proposer beaucoup de vins orange. Quand on regarde votre carte des vins, bien sûr, il y a des vins rouges, bien sûr, il y a des vins blancs, mais il y a, je sais pas, 3 ou 4 fois plus de vins orange peut-être.
Alors oui, en effet, c'est une volonté de notre part aussi parce que avant d'ouvrir Livingstone, qui est ouvert depuis peu de temps puisqu'on a ouvert fin juin, on s'est vraiment beaucoup concerté avec Laura, donc qui fait partie de l'équipe de la mercerie, avec Valentin qui a ouvert Livingstone, pour savoir comment est-ce qu'on allait associer sa cuisine qui est très particulière. On est vraiment sur ce côté très gourmand, très très riche, on est sur de la friture. On se fait un peu bousculer. L'idée d'avoir tant d'oranges, c'est vraiment d'essayer de contrebalancer, mais vraiment d'avoir autant de références en termes de goût qu'on puisse retrouver en fait dans une carte des vins, je dirais, plus classique. Et alors justement, le menu change à peu près tous les 2-3 jours. De manière générale, il va changer toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et moi, j'essaye de faire rentrer des références qui vont aussi aller en adéquation avec les saisons. Par exemple, en ce moment, on va être sur la courge, sur plus des choses un peu plus riches, des champignons. Et bah, c'est intéressant d'avoir des macérations un petit peu plus poussées. En ce moment, on a quelque chose que j'aime beaucoup qui s'appelle la Grange de Louiset, qui est un couple de vignerons qui travaille très très bien depuis 25 ans et qui travaille sur une macération de clairette. Alors clairette, c'est un raisin qui vient du sud. Là, c'est une macération assez longue de plusieurs mois. Et là, on va vraiment retrouver, c'est beaucoup ce côté épice, côté un peu zeste, pamplemousse, assez, c'est pas péjoratif de dire épice de Noël, mais dans l'esprit, on s'y retrouve un peu anis étoilé, tout ça. Et avec ça, vraiment, ça se marie tellement bien. Et c'est un côté assez explosif en bouche parce que c'est surprenant. C'est souvent ce qu'on nous dit à Livingstone, c'est que les saveurs sont surprenantes. J'essaye d'aller dans le même sens que la cuisine en disant, bah, vous vous faites surprendre parce que vous mangez, faites-vous surprendre aussi parce que vous buvez, et faites-vous surprendre avec les deux en même temps. C'est très chouette.
Comment tu conseilles les gens ? D'ailleurs, moi, j'ai eu la chance déjà de me faire conseiller par toi et je trouve que tu conseilles super bien. Est-ce que tu peux l'expliquer aussi à nos auditeurs et nos auditrices ? Quelles questions tu leur poses ou comment tu analyses un petit peu la situation, un peu leur goût et leur référentiel pour les guider ?
Alors, la première chose que je demande, c'est est-ce qu'ils connaissent le vin orange ? La plupart des gens, j'ai l'impression qu'on a fait assez de travail de médiation en amont pour que les gens sachent qu'on fait du vin orange ici. Mais par curiosité, si les gens sont intéressés, je leur explique ce que c'est que le vin orange. Et après, s'ils veulent partir, par exemple, sur une bouteille, j'essaye de vraiment de les guider suivant des choses assez simples sur lesquelles tout le monde peut se retrouver, c'est-à-dire ce côté plus fruité, on est plus sur du floral ou sur quelque chose de plutôt minéral, assez riche, amer, enfin quelque chose qui parle au palais. Parce que c'est vrai que dans le vin, il y a tellement de termes qui peuvent un peu faire peur quand on connaît pas bien. Et que même moi, je trouve que c'est assez dommage parce que ça exclut une partie des gens qui finalement peuvent avoir peur de goûter telle ou telle chose et ne pas s'y retrouver finalement. En fait, ça va aussi dépendre de leur approche du vin de manière générale. Est-ce que c'est des gens qui sont habitués au vin nature ? Est-ce que c'est des gens qui ont plus l'habitude de boire des vins conventionnels, qui ont envie de se faire un peu bousculer ou déguster de nouvelles choses ou qui veulent rester un peu dans leur zone de confort ? Et de toute façon, c'est ce que je dis tout le temps, c'est que la meilleure façon d'en parler, c'est quand même de goûter et que ça jamais une bouteille sans qu'on l'ait goûté auparavant et être sûr que ça va leur convenir pendant tout un repas. Après, ce qui est très sympa, il y a pas mal de gens qui ont juste envie de découvrir et qui prennent un verre pour savoir au moins ce que c'est et après préfèrent se rétracter un peu, se dire non, finalement, on va rester un peu sur notre petit vin rouge un peu plus classique, disons. Je suis assez contente de la carte qui évolue quasiment toutes les semaines. On essaye en tout cas de faire rentrer beaucoup de références et en petite quantité afin de pouvoir jongler avec telle ou telle chose. Ça va bien avec ce qu'il y a à la cuisine en ce moment. Là, on va avoir tel type d'événement, on va plus sortir telle ou telle référence. Enfin, c'est très changeant. Et c'est ça qui me plaît aussi beaucoup dans ce métier, c'est que moi, je suis toujours en perpétuelle découverte. Et en fait, il y a une immensité à découvrir tout le temps, quoi. Pendant toute cette période de Covid qui a été floue pour tout le monde, mais surtout pour nous, restaurateurs, on en a profité pour aller vraiment à la rencontre des vignerons en passant par tout le Rhône Sud, en remontant Beaujolais, Bourgogne, Jura. Après, on est parti un peu plus dans la Loire. On a un peu un petit tour de France afin de vraiment d'aller à la rencontre de ces gens-là, chez qui on se rend compte d'autant plus que chez eux, c'est pas un effet de mode, en fait. Parce que beaucoup surfent autour de cette histoire de vin nature, de vin orange. Ah, c'est la mode, c'est cool, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais en fait, derrière ça, il y a des gens mais passionnés qui travaillent d'arrache-pied. C'est eux le pilier de ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'on a construit la carte des vins, surtout la carte des vins orange, grâce à ce temps qu'on a pu avoir, qu'on n'aurait jamais eu sinon, en fait. Et donc là, on essaye de partir un peu, je dirais pas chaque week-end, mais de temps en temps, de pouvoir se prendre un peu de temps pour aller découvrir les nouveautés et qu'est-ce qui se fait. Et beaucoup de vignerons, finalement, qui travaillent avec du rouge et du blanc, s'essayent à la macération en disant, bah, pourquoi pas, on va essayer une cuvée de macération, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas ? Et nous, on veut bien faire les cobayes.
Cette complexité de goût qui, donc de base, va être liée au type de raisin, forcément, puisque c'est à partir de ce raisin-là qu'on va avoir au minimum les tanins de la peau et qu'on va faire macérer. Mais aussi, comme tu l'as dit, l'autre variable, c'est le temps de macération. Je repensais un peu au vin orange que j'ai bien aimé et un peu spontanément comme ça, il y a 2 bouteilles, 2 cuvées que j'ai pu goûter déjà plusieurs fois et qui me revenaient en tête et qui sont, je crois, assez opposées sur le spectre. Je pensais à la fois à Sancerre de Sébastien Riffaut. qui est en fait plutôt une macération courte, avec des notes presque de peau d'agrumes, mais tout en restant minéral, un truc assez frais, mais avec ce truc un peu, ouais, agrume, agrumé, j'ai envie de presque d'inventer un adjectif, je crois que ça se dit pas, agrumé. Et puis de l'autre côté, je pense à un autre que j'ai pu boire plusieurs fois en Italie, Radicone, avec du Pinot Grigio, qui est plutôt, lui, pour le coup, sur une longue macération et plus structuré, et qui a pas forcément toujours fait l'unanimité quand j'ai pu le goûter avec différentes personnes, parce qu'il raconte beaucoup de choses, en fait. Et toi, est-ce que tu as une préférence en termes de macération, ou c'est quoi un peu tes variables à toi que tu vas aimer en termes de vin orange?
Comme là, on est dans la cave, je suis en train de regarder autour de moi qu'est-ce qui me plaît en ce moment à la cave.
Oui, c'est génial, parce que Hélène, oui, tu nous as sorti deux chaises. On est vraiment assises au milieu de plein de bouteilles là dans la cave de Livingstone. C'est trop bien.
C'est vrai que je parle beaucoup de l'Alsace parce que l'Alsace, je trouve que ça a vraiment une mauvaise réputation d'école où les Riesling étaient super sulfités, très sucrés, où on se réveillait avec le mal de tête le lendemain, et que maintenant, en fait, en Alsace, on fait des choses incroyables en 100% nature et qui n'ont rien à voir avec les caractéristiques qu'on pouvait retrouver avant, qui sont super propres en termes de vinification et de vin en lui-même. Par exemple, j'aime beaucoup le domaine Geschicht, donc là, c'est un domaine qui est près de Colmar, du coup en Alsace, et qui fait plusieurs macérations, mais par exemple, là, il y a un grand cru qui s'appelle le grand cru Vinec, qui est une macération de Riesling. Et je trouve que c'est super joli parce que ça fait partie de ces bouteilles qui, en l'ouvrant, tu vas avoir vraiment une idée de plusieurs saveurs. Et plus le repas va évoluer, plus tu vas te servir et plus, en fait, ces saveurs vont se développer et vont être différentes surtout. Et en fait, je trouve ça très chouette aussi d'accorder une bouteille entière sur un repas quand cette bouteille peut autant évoluer que les vins nature peuvent évoluer. À partir du moment où on les ouvre, et ben, étant vivant, ils changent. Alors parfois, on les carafe pour développer les saveurs. Parfois, ça suffit de les laisser un peu tranquilles. Ils évoluent tout seuls et c'est super. J'aime beaucoup aussi les macérations de cépages très aromatiques, notamment aussi le Viognier. C'est un cépage très aromatique qu'on va retrouver dans le Rhône. Alors, il y a beaucoup de vignerons qui diraient que c'est un cépage facile à travailler parce qu'il y a ce côté très floral qui va rassurer beaucoup de gens. Et finalement, en macération, il va y avoir ce côté beaucoup plus fin, beaucoup plus délicat. On va retrouver vraiment ces arômes beaucoup plus complexes et peut-être moins faciles. C'est-à-dire que la macération, à un certain point, c'est-à-dire quand c'est poussé, tu parlais du Radicone, je dirais que c'est pour les initiés, c'est des gens qui vraiment ont su apprivoiser en fait le vin orange et se l'approprier. Et se dire, bah, voilà, maintenant je peux dire j'aime ça.
Oui, c'est comme si en fait ça venait un peu chatouiller d'autres endroits du palais, et du coup, si c'est pas un truc que tu as déjà pu avoir, tu peux peut-être être troublé et voir trouver ça pas bon sur certains vins, alors qu'en fait, voilà, je pense qu'il y a vraiment aussi cette histoire d'entraînement, et c'est peut-être intéressant aussi avec le vin. Alors, c'est pas pour dire qu'il faut absolument être entraîné sur tout pour tout savourer. Il y a aussi cette histoire un peu d'évolution et de se sentir en perpétuel mouvement aussi dans son appréciation des vins.
Je pense qu'il y a beaucoup de curiosité autour de ça. Il faut être curieux, il faut avoir envie de découvrir, envie de se faire un peu bousculer. C'est souvent un qui revient quand je fais goûter du vin et quand on me regarde, fait c'est surprenant. J'attends la suite parce que surprenant, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire c'est surprenant, mais est-ce que tu apprécies d'être surpris ou est-ce que finalement tu préfères goûter autre chose? Mais déjà, pour moi, c'est une sorte de victoire de dire, bah, au moins, voilà, tu penseras que ça t'est plu, que ça t'est pas plu. C'est quelque chose qui t'a bousculé, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Et de toute façon, on est là pour ça, on est là pour découvrir des nouvelles choses et c'est ça qui nous plaît ici, quoi.
C'est pour ça que ça reste très bien aussi les vins oranges au vert. Moi, je pense que c'est vraiment comme ça que j'ai commencé dans les vins oranges, en goûtant un de temps en temps et en me disant, voilà, c'est le petit verre de l'apéro et après, on peut se commander une bouteille peut-être dont on est plus sûr qu'elle rentre dans nos goûts ou pas pour le reste du repas, quoi. Ça n'engage à rien, c'est juste un verre.
Ouais, ça, c'est très, très chouette, je trouve aussi. Ici, à Livingston, on essaye d'avoir 4 ou 5 références au verre. En tout cas, même, voilà, l'après-midi, on se dit, ah, mais on va au verre ça, ça fait longtemps que je l'ai pas goûté. Je l'ai goûté il y a quelques mois, c'était un peu tremblant, on savait pas trop si, voilà, c'était pas vraiment en place. Maintenant, on regoute. Et en fait, ce panel éclectique dont je parlais au début, de l'avoir au verre, c'est super chouette d'en avoir un qui tire plus sur la mer, un qui tire plus sur le côté floral, l'autre sur la tension. Et c'est bien que tout le monde puisse se rendre compte que le vin orange, c'est pas juste ce vin-là. Et qu'il a ces caractéristiques-là. Et comme tu dis, c'est super chouette de pouvoir goûter au vert parce que comme ça, tu te rends compte qu'il y a autant de variables dans en orange que dans les couleurs plus classiques.
Tout à l'heure, tu as parlé du bonheur qu'il y a aussi parfois à ouvrir une bouteille qui, déjà rien que sur le temps du repas, va évoluer. Et c'est vrai que c'est trop cool quand ça arrive parce que tu as l'impression que J'allais dire, t'as l'impression que c'est vivant, mais c'est exactement ce que c'est. C'est vivant. C'est vivant et ça évolue. Et presque, ouais, quart d'heure après quart d'heure, c'est trop bien. Mais ça me fait aussi penser à une question que je voulais te poser, qui est une discussion que j'ai déjà eue avec quelques personnes du milieu du vin et qui me disaient que, notamment dans le vin nature, ok, c'est un endroit où tu peux trouver des choses exceptionnelles et un peu cette nouvelle génération de gens qui veulent changer les choses et aller plus loin et être plus rigoureux. Mais que parfois, ça pouvait aussi être cet argument du vin vivant, une excuse pour justifier certains vins qui pourraient en vérité être plutôt travaillés davantage ou qui sont un peu décevants et on va dire non mais c'est tout, c'est comme ça, il est vivant, c'est parce que vous l'avez ouvert au mauvais moment. Est-ce que parfois tu t'es déjà dit ouais bon là ça sent vraiment la tentation de faire un vin orange pour dire de faire un vin orange?
Alors oui, oui, c'est déjà arrivé parce que je pense qu'on a la chance aussi d'avoir des gens qui viennent nous voir pour nous faire déguster des choses et on est entouré de vignerons et d'agents qui nous font goûter telle ou telle chose qui sont plus ou moins dans l'air du temps. Et j'ai déjà goûté des choses où je me suis dit non mais absolument pas. Mais après, ça peut être une question de goût comme ça peut être aussi une question de travail qui n'est pas abouti, où le vin n'est pas prêt en ce moment. À se rendre compte aussi, comme tu disais, que les vins sont tellement vivants qu'ils peuvent ne pas être sûrs et être un peu soit fermés ou avoir cette réduction qu'on appelle ce côté fermier ou pousse de vache, pour parler plus vulgairement, dans les vins nature. Mais parfois, il suffit d'attendre un peu. Et puis parfois, c'est juste pas bon.
Alors Hélène, on arrive à la dernière question qui est un peu la question rituelle dans Bouffon depuis ce début de saison. Je demande à mes invités ce que veut dire « manger pour eux ». Mais vu le thème de notre épisode, je vais plutôt te demander ce que veut dire boire pour toi, partager un vin, qu'est-ce que ça veut dire ?
Boire du vin, bah, j'ai l'impression que je vais dire une réponse un peu bateau parce que c'est ce côté très partage. D'ouvrir une bonne bouteille de vin et de faire cling en faisant chin, c'est un sentiment assez, assez jouissif finalement. Je trouve que boire, ça fait partie d'une des plus belles choses qui nous a été transmise depuis que le vin existe. Puis parler aussi de la petite ivresse, je parle pas de la grande ivresse, mais genre la petite ivresse qui s'ensuit du premier verre de vin qui est partagé. Et voilà, quand je disais ces émotions, j'ai souvent ce lien que je fais quand je bois une très bonne bouteille de vin et que je peux pas m'empêcher de faire à chaque gorgée et que je me dis waouh, si je fais ça et que c'est instinctif, je réfléchis pas, c'est juste ce petit gémissement qui vient à chaque fois qui fait que waouh, ça il faut que j'en aie. C'est d'être tout le temps surpris par des nouvelles choses. Et ce côté partage qui est super important. C'est-à-dire que de boire un verre de vin, c'est pas seulement pour parce que c'est bon ou parce que ça se marie avec ça. C'est l'émotion qui est transmise à travers des regards, des rires, une connexion. Le vin fait vraiment le lien avec la personne qu'on a en face. C'est ce partage à chaque gorgée qui rajoute un rire, qui rajoute un sourire, un souvenir, plein de choses. C'est un lien. C'est vraiment... C'est une super sauce.
Vous le savez certainement, produire un vin nature sans défaut, droit et stable est plus difficile que produire un vin conventionnel. La raison est simple, les sulfites présents en plus grand nombre dans le vin conventionnel empêchent le développement des bactéries. C'est une barrière de protection dont peut moins profiter le vin nature par définition. Mais il se trouve que les tanins, que l'on retrouve surtout dans la peau et les pépins des raisins, ont les mêmes propriétés antiseptiques et antioxydantes que les sulfites. Ce qui veut dire qu'un vin rouge nature sera quand même protégé par ses tanins. Et ce qui fait donc du vin blanc nature sans sulfite et sans tanin, le vin le plus sensible aux mauvaises bactéries. Conclusion, faire du vin orange en laissant macérer ses raisins blancs avec les parties solides permet de renforcer sa protection naturelle grâce aux tanins. Voilà un autre avantage du vin orange. Merci à Hélène Maurer de nous avoir donné de son temps pour parler de vin orange. Et si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcasts. Ça nous aide énormément à bien référencer notre travail. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho et Mathilde Jonin. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux.